Je n'ai rien compris à cette question, mais Flo, tu peux y répondre.
Cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire.
Nous, on est en progression.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la cave de papy. On est désolé pour le petit contretemps qu'on a eu, voilà. Un peu comme les joueurs du Racing ce soir, on n'était pas au point pour ce début de saison, mais voilà, on a réussi à faire en sorte qu'on puisse quand même vous parler de cette rencontre. On a réussi en particulier Steve, qui est notre recrue cette saison. Steve, comment tu vas? C'est toi qui gères la régie ce soir.
Ah, je suis épuisé. J'ai lutté pendant trois quarts d'heure, mais c'est bon, tout va bien.
Bah, l'essentiel, c'est qu'on soit là avec vous. On est super content de vous retrouver. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous a préparé pas mal de nouveautés cette saison. En particulier, comme vous pouvez le voir, on a rajouté un petit dispositif qui vous permet maintenant de savoir qui parle. Ce sera beaucoup plus simple. On a aussi renommé ce débrief la prolongue. Alors, pourquoi la prolongue? C'est tout simplement parce qu'on a un deuxième, on aura un deuxième format qui va arriver d'ici peu de temps, qu'on va annoncer. Et on vous laisse encore un petit peu la surprise pour le moment. On a aussi avec nous ce soir Cyril qui a eu quelques mésaventures. Cyril, comment tu vas?
Ben écoute, ça va, je souffre le martyr. Enfin, mon tibia souffre le martyr. Mais c'est ça, quand on célèbre des buts trop vite et qu'ils sont refusés par des hors-jeux de position assez clairs, hein, il me semblerait, n'est-ce pas, Nino, de notre ami, notre invité?
Exactement, il y avait bien 2 mètres entre la défense et l'attaquant. Hein.
Voilà, alors... Alors Nino, notre invité qui gère le média depuis la butte, comment tu vas?
Bah écoute, je ne peux qu'aller très bien après cette jolie victoire en terre alsacienne.
Et bah c'est parfait, on aura aussi, comme vous pouvez le voir, Flo qui n'interviendra pas dans l'émission, il est uniquement là, entre guillemets, pour faire vivre le live de l'émission sur Twitter, donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, bon voilà, très brièvement, on est super content de vous retrouver. On aurait préféré le faire avec une victoire. On va commencer par le premier sujet. Tout simplement, on a vu une équipe strasbourgeoise en grande difficulté. La question, c'est est-ce qu'on a été en difficulté parce qu'on a affronté une équipe plus forte ou tout simplement plus organisée? Flo, Cyril, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, moi, je trouve pas spécialement que Angers a été plus fort, peut-être plus fort physiquement. Déjà dans un premier temps, peut-être plus au point physiquement, plus organisé c'est sûr, on s'est fait bouffer tactiquement. Personnellement, je vais tout de suite commencer par un tacle à la gorge à tous les joueurs qui ont parlé pendant l'intersaison dans les DNA, etc. Persil, Chouaris, Lienard et compagnie. Ouais, avec Loré, avec Stéphane, machin, il y a ci, il y a ça qui va mieux, il y a ça qui allait pas bien, etc. Aujourd'hui, j'ai pas vu spécialement de différence entre le schéma de jeu de Loré et le schéma de jeu de Stéphane. On repart sur les bases avec lesquelles on a terminé la saison dernière. Vous allez peut-être me trouver sévère dès la première émission, tant pis, c'est pas grave, je suis là pour ça. Mais toujours est-il que voilà, je pense pas que Angers était spécialement plus fort. Moi je m'attendais à ce qu'avec 3 matchs à domicile, le retour du public au stade de la Méno, on parte avec 9 points au mois d'août. Et ben, on va peut-être en prendre, il est toujours possible d'en prendre 9. Mais pour ça, il faudra en prendre 3 au parc, et c'est pas encore c'est pas gagné. Donc du coup, on va se focaliser principalement sur la réception de Troyes et de Brest. Mais toujours est-il qu'il va falloir changer beaucoup de choses, on en parlera plus tard dans l'émission, il va falloir changer beaucoup de choses dans cette équipe.
Exactement, bah, on va un petit peu enchaîner. Steve, est-ce que tu es plutôt d'accord sur ce qu'a pu dire Cyril? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'opposition angevine ce soir?
Bah, moi, j'ai vu qu'on s'est fait croquer, on s'est fait bloquer tactiquement dès le départ. Donc ça nous a mis un peu en difficulté, on a mis beaucoup de temps à rentrer dans le match, même si c'était agréable, ça allait vite, mais on se trouvait pas, il y avait un manque de cohérence devant et au milieu, derrière ça tenait à peu près, mais le premier quart d'heure a été très compliqué, après on a repris un peu le contrôle, et dès qu'on a abandonné la balle aux Angevins, on était en difficulté et je pense que l'équipe de Julien Stéphane n'est pas faite pour laisser la balle à l'adversaire comme le faisait très bien l'air Loré, enfin, sous Thierry Loré. Sans la balle, on était très performant, mais là, sans le ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Là, je pense qu'on a plus une équipe qui doit avoir le ballon.
Exactement. Bah, on va demander directement au principal intéressé, hein, avant de passer un petit peu aux commentaires. Nino, toi qui connais un petit peu mieux cette équipe angevine, est-ce que tu penses que foncièrement vous étiez plus fort individuellement ou c'était vraiment une question d'organisation? On sait que l'équipe a pas mal changé avec l'arrivée de Baticle cet été.
Bah, on en discutait avec toi dans l'avant-match la dernière fois, et c'est vrai que eh ben, je ne sais pas si on peut dire qu'Angers était meilleur ce soir, enfin cet après-midi. Je pense que le jeu proposé par Baticle a posé problème à Strasbourg et que le SCO s'est retrouvé mieux organisé avec peut-être un peu plus d'automatisme clair. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire que le SCO était au-dessus parce qu'il y a eu quand même des grands moments où Strasbourg aurait pu prendre l'avantage.
Moi, j'ai trouvé personnellement que vous étiez quand même assez au-dessus parce qu'on a eu rarement vraiment l'impression qu'on pouvait renverser le match. Alors oui, on a eu quelques petites occasions, mais il n'y avait pas cette impression de submersion pour autant. Moi, j'ai été vachement déçu quand même par ce que j'ai pu voir ce soir. Après, voilà, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il n'y avait pas forcément non plus cette impression de réelle opposition, alors que voilà. On peut le dire, je pense que tu ne nous contrediras pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui voient Angers comme des favoris à la descente cette année, notamment avec l'interdiction de recrutement.
Bah en fait, finalement, c'est se tromper parce qu'on n'a pas eu vraiment d'interdiction de recrutement. Elle a été levée par l'UEFA, donc au jour d'aujourd'hui, on a pu recruter. On a fait un recrutement intéressant pour pas cher, en fait, finalement, avec l'arrivée d'Asdinounaï, d'Avranches, passé par chez vous, qui a vraiment fait une préparation super intéressante. Et puis, le petit Baptiste Amendy, qui a eu un peu plus de mal mais qui est très intéressant dans ce registre de milieu défensif pour pallier au départ de Koulibaly, parti pour la Serie A. Donc c'est vraiment un recrutement intéressant qui n'est pas finalisé parce que le SCO doit dégraisser avant de recruter. Ça a été la décision de la DNCG. Maintenant, dire que tout le monde nous voit descendre, c'est tous les ans pareil. Donc au final, nous on est habitués. Et de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est quand même plutôt intéressant. Il y a des belles choses. Maintenant, défensivement, il y a quand même eu des moments où on a bien joué le coup du hors-jeu, mais il y a eu quand même, à chaque fois que vous preniez la profondeur, c'était la panique dans la défense. Donc, j'espère qu'on va réussir à pallier tout ça parce que ça peut nous poser des problèmes cette saison.
Bah, on va déjà passer par quelques commentaires, notamment sur la page Facebook, où on a Geoffrey Beyer qui nous dit exactement, je suis d'accord, on n'a pas vu la différence entre Stéphane et Loré aujourd'hui, alors on y reviendra un petit peu plus tard, je pense, mais c'est quand même encore un petit peu tôt, à mon avis, pour voir la différence. Sinon, sur les commentaires YouTube, on a Cone qui nous dit avoir le ballon pour en faire quoi? On a l'animation offensive du Liechtenstein, je pige pas que Marco ne voit pas ce manque. Pour moi, c'est une priorité avec le défenseur central. Et là-dessus, moi, je suis assez d'accord, mais encore une fois, ça, on en parlera dans la partie 4, où on demandera ce qui manque véritablement à l'équipe. Voilà, donc je pense qu'on est assez d'accord globalement sur le premier sujet. Personnellement, moi, je pense quand même qu'on a des effectifs assez similaires. Il n'y avait pas foncièrement une équipe plus forte, mais il y avait une équipe qui était beaucoup plus prête, je pense, ce soir.
Moi, je ne sais pas si on peut dire que Angers était plus prêt. Toujours est-il qu'il est clair et net qu'avec une défense telle quelle, on n'est pas prêt, en tout cas défensivement. Ça c'est une certitude. Sam, on en a
Oui.
parlé plusieurs fois pendant l'intersaison. C'est super. On a fait revenir Gamero. On a signé Perrin, on a signé Fila. Perrin, Fila, ça reste des paris. On en a parlé, tu en as parlé aussi, Sam. Le retour d'Alonso, bon, on l'a pas vu aujourd'hui. Difficile de juger le retour d'Alonso sur un match, surtout qu'il est rentré. Je ne sais même pas s'il est rentré d'ailleurs. Toujours est-il que la saison dernière de Alonso, on peut dire que c'était une saison un petit peu particulière parce qu'il y avait le Covid, il n'y avait pas de public, etc. Toujours est-il que moi, je suis pas emballé. Non, c'est clair et net qu'il va falloir recruter défensivement et à l'image de ce que dit Cohn, offensivement, c'est bien beau d'avoir des joueurs comme Gamero, comme Diallo, comme Ajorque, mais s'ils ne reçoivent pas de bons ballons ou qu'ils ne savent pas quoi en faire, aucun intérêt.
Mais en fait, et tu l'as vu ce soir, c'est que il y avait quand même beaucoup de soucis encore d'automatisme. Tu le vois sur le côté droit, il y avait des soucis d'automatisme entre Waris et Fila. Surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'était la défense centrale. Tissoko et Djikou, ouais. C'était assez impressionnant. Comme...
Mais après, justement, on en parlera dans la feuille de Schlopp tout à l'heure de Racing Scope qui a fait sa feuille, même s'il n'est pas là ce soir. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'au moment de... Alors, au moment de la compo d'équipe, je veux dire, on était tous, ou presque, à la journée des supporters. On nous annonce que la composition d'équipe alignée face à Fribourg lors du premier match serait quasiment identique à celle qui serait alignée lors du premier match. On arrive, on nous annonce une compo d'équipe. Alors certes, il y a le retour de Cassie des JO. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Cassie est de retour des JO. Est-ce qu'un Japonais, un club japonais, ne pouvait pas garder Anthony Cassie pour 25 euros mais est-ce que... Enfin, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on a des défenseurs centraux de métier avec Lucas Perrin qui reste sur le banc de touche. Éventuellement, pourquoi pas mettre Fila à gauche comme il avait été le cas contre Fribourg. Éventuellement, si on veut mettre Sissoko en défense centrale, pourquoi ne pas mettre Perrin latéral droit qui avait fait un beau match. Pourquoi, et encore je vais être sévère parce que Diallo c'était pas le moins bon sur le terrain, mais pourquoi mettre Gamero sur le banc. J'ai pas compris en fait le 4-4-2 à plat de Stéphane, mais on en parlera.
Oui, on va en parler. On va pouvoir passer au deuxième sujet. Maintenant, on va surtout parler de danger. Maintenant, on va plutôt se demander... quelles sont les réelles ambitions maintenant de l'équipe, parce qu'elle a vraiment affiché un beau visage ce soir. Toninho, t'en penses quoi? Quelles sont les vraies ambitions d'Angers cette saison?
En préparant l'émission, pardon, j'ai trouvé une citation du coach Gérald Baticle pendant le Media Day, quand on l'interrogeait sur l'objectif de l'équipe cette saison, il avait répondu « L'objectif, ça va être dans un premier temps le maintien, c'est la priorité. On passe après un coach et son staff qui ont stabilisé le club dans l'élite, donc on va rester dans cette lignée. Une fois l'objectif atteint, on n'aura pas de limite, mais comme je le dis, il faut d'abord assurer le maintien et faire du jeu qui plaît aux supporters. » Donc moi je pense que la citation elle résume plutôt bien les ambitions du club cette saison parce qu'on le sait et vous l'avez dit il y a eu une intersaison qui était quand même mouvementée avec l'incertitude de jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec la DNCG, un recrutement qui pour l'instant n'est pas terminé, un changement en interne qui est quand même assez important. Voilà, il va falloir que le SCO se mette à jouer aussi bien le football que cet après-midi. Il va falloir être aussi plus solide défensivement parce qu'il y a eu des moments avec si le Racing avait pas été aussi brouillon, tout simplement il y avait but et la philosophie du match aurait pu être tout autre. Je pense qu'il faut jouer le maintien parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui nous voient descendre. Je pense que on a les moyens et l'effectif pour ne pas descendre. Maintenant, il faudra faire attention à ce que cette qualité de football et les qualités des résultats surtout suivent sur toute la saison. Et après, on verra. Je pense que faire un top 10, ce serait bien. Après, l'important, c'est le jeu proposé aussi. Parce que il faut faire du beau football, c'est bien. Mais il faut assurer les résultats. Donc voilà. Le maintien et après, on verra.
Moi, je pense. Des commentaires, Nino Pastero, notre chroniqueur qui n'est pas là ce soir, qui apparaîtra, notre nouvelle recrue, trouve, et du même avec toi, Angers, ça doit être top 10, l'objectif, à mon sens. Voilà.
On va donner la parole à Steve.
Moi, sans faire offense à Angers ni à Nino qui est là ce soir, mais moi, je pense que Angers fait le match qu'ils font aujourd'hui, parce que le Racing était à côté de la plaque. Ils étaient à côté de la plaque, on les a laissés faire, on était à la rue, on n'était pas organisé. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu la même équipe ce soir que contre Fribourg ou contre Francfort. Et moi je pense que Angers, s'il n'y a pas du recrutement rapide qui arrive, on va vivre une saison très très difficile.
Après ce soir on a eu quand même pas mal d'absents, nous déjà dès le début on a eu des problèmes que ce soit administratifs et même des blessures.
Oui, c'est ça. Donc,
l'effectif paraît pas profond alors qu'en fait il y a des recrues, mais en temps normal on a quand même un effectif qui était quand même plutôt profond avec de la qualité. On a fait une préparation, on a joué le Sporting, si on se base que sur le résultat on perd 2-0, c'est sûr qu'on peut se dire que le SCO a pas fait un super match, mais moi j'ai vu le match et honnêtement le SCO a proposé un football super offensif, ça a juste manqué dans le dernier geste. Alors oui, je comprends le fait qu'on puisse avoir des incertitudes, ça plane notamment sur les côtés et sur la défense, à mon sens, parce qu'aujourd'hui on est obligé de faire jouer Fulgini parce qu'il manque Capel ou Naïm Endy. Maintenant je pense que il y a des automatismes, il y a de la qualité quand même dans cet effectif. Je pense qu'on a de quoi se maintenir et de plutôt bien jouer.
En tout cas, cet après-midi, moi, je trouve qu'on a vu un beau match national.
Ah oui, non, mais c'était assez impressionnant quand même. Bah, je pense que pour beaucoup de personnes, quand même, on s'attendait à voir quelque chose de mieux que l'an dernier. Pas forcément avoir déjà des idées de jeu en place, mais au moins avoir un effectif qui soit vraiment dans l'envie, etc. On avait pas mal souligné ça la saison dernière. Au final, on n'a pas vu tant de changements que ça.
Non, c'était brouillon. Comme on pouvait voir l'an dernier, c'était brouillon. Et il n'a pas eu ce qu'on avait de temps en temps l'année dernière, c'est-à-dire un regain où l'équipe se mettait par terre. Et ça, on ne l'a pas vu ce soir.
Mmh. Ben, ce sera à voir pour les prochaines semaines. On va remercier notre invité, Nino, d'avoir été là en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir attendu.
Surtout qu'il a été là plus longtemps que prévu, du coup.
Avec, ouais, merci d'avoir attendu.
Il n'y a pas de souci, les gars. C'était un plaisir. Puis je vous souhaite une belle saison avec le Racing. C'est un club que je ne vais pas le supporter, hein, parce que, évidemment, je suis fidèle à mes noirs et blancs. Mais c'est un super club de Ligue 1. C'est un club historique. J'espère que vous allez vous en sortir. Après, je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire. Mais ouais, j'espère que vous allez faire une belle saison.
Ouais, et puis comme dit, n'hésitez pas, hein, franchement, à aller faire un tour si vous voulez suivre un petit peu l'actualité des clubs. Le compte Twitter, c'est bien @dlb-officiel.
Exactement.
Voilà, donc il fait vraiment du super travail. Si vous voulez suivre un petit peu différemment l'actu d'Angers, de loin ou de près, n'hésitez pas à aller le suivre. Il fait aussi des très bonnes émissions. Et puis voilà, merci d'avoir été là ce soir en tout cas.
Merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée tout le monde et prenez soin de vous.
Et bonne soirée à toi aussi.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bon, maintenant qu'on se retrouve entre Strasbourgeois, on va pouvoir passer tranquillement à la feuille de Schlob. Donc une feuille que Racing Scope nous a laissée. Malheureusement, il n'a pas pu être là malgré tout, puisqu'on a eu des petits soucis techniques. Mais voilà, on va pouvoir l'afficher tranquillement. Il nous a laissé les directives. Donc on saura vous expliquer un petit peu ce qu'il a cherché à faire. Matt Sells dans les buts. Déjà, premièrement, les gars, on va passer ligne par ligne. Qu'est-ce que vous auriez mis à Matt Sells? Peut-être Steve, si tu veux commencer.
Bon, écoute, sur les buts qu'il prend, il ne peut rien faire. Il n'a pas d'arrêt à faire à part ces deux choses-là. Donc, la notation que lui a mis Scope est très bien. Je ne vois pas quoi rajouter parce qu'il ne mérite rien.
Juste avant de passer à la ligne défensive, puisque Sells y a trop rien à dire. Dire à nos suiveurs qu'ils auront remarqué que la feuille de Schlopp a un petit peu changé cette année. On a mis la tête des joueurs en version tout demi, un petit peu à l'image de nos photos de profil, voilà, pour rester dans une idée graphique similaire à ce qu'on vous propose. C'est la nouvelle feuille de Schlopp et on espère que ça vous plaira. Voilà.
Exactement, bah, t'as tout dit, hein. Cyril fait partie de la nouvelle direction artistique, j'ai envie de dire, de nos recrues et de nos anciens. Moi, je vais juste parler rapidement de Sells. Alors oui, bien sûr, il avait trop rien à faire sur les buts qu'il prend, mais je l'ai trouvé quand même assez décevant en termes de jeu au pied. J'ai trouvé qu'il a perdu pas mal de ballons. Il n'était pas forcément tranchant à la relance, donc ça m'a peut-être un petit peu déçu. Et en fait, ça rejoint un petit peu l'idée de Guillaume Bretzner sur le chat YouTube qui nous dit que niveau relance, c'était assez compliqué ce soir-là.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les relances. Après, il n'a pas eu énormément de choses à faire. Il prend deux buts, un peu malgré lui, parce que les deux buts qu'il prend, malheureusement, bah, ils étaient. Moi, je suis en tribune Est Famille, donc du coup, les deux buts qu'il prend, ils sont juste en dessous de moi. Et franchement, il ne peut rien y faire. Hein. Il manque concrètement une défense centrale, une défense tout court dans cette équipe. Et malheureusement, bah, Sells, il prend un but sur un corner à la suite d'un corner. Un autre but sur un cafouillage du boxeur Angevin. Voilà. Sells, c'est vrai que ses relances au pied n'ont pas été fameuses. Après, les passes qu'il reçoit aussi de la part de ses arrières ne sont pas fameuses non plus. Donc, je trouve sévère avec Sells.
Bah, tu regarderas un petit peu. Pas mal de nos viewers sont assez d'accord au final dans les commentaires, surtout sur la page Facebook Docker du RCS. On vous remercie d'être là ce soir. Par exemple Benjamin Esch qui nous dit Sells hyper fébrile, aucune sortie sur les corners et ses relances zéro. On a Geoffrey Beyer qui nous dit encore il est pas serein Sells, on dirait. Moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Alors, bien sûr, il faudra attendre un petit peu plus pour savoir vraiment ce que, bah, tout simplement, ce que Matsels vaut cette saison. Mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Après, rien de scandaleux. Et comme dit, je pense que ce soir, il y a beaucoup plus grave, entre guillemets, notamment sur la ligne défensive. Qui veut commencer sur la ligne défensive?
Ouf, il y a du boulot. Parce que c'est.
Si, vas-y.
Vas-y, j'y vais. Bah, Cassie, invisible. Il a fait juste un petit festival en première mi-temps. Mais tout le reste du match, invisible. Les relances pas propres. C'était assez terrible. Sissoko, c'est pareil. C'était pas l'assurance touriste qu'on l'a vu. On l'a vu loin de ses joueurs, en fait. Enfin, loin de ses. Des Angevins. Angevin, il colle tout le temps. Il est toujours. Il harcèle les attaquants. Là, on l'a moins vu. Djikou qui a joué un peu quand il a pu des pompiers de service, je pense à cette attaque, c'était Mangani, je crois, en première mi-temps, qui part et où il lui enlève le ballon au dernier moment. Et Fila, il a bien commencé. Il a bien commencé et il s'est éteint au fur et à mesure. Donc je pense que c'est là où on a plus péché dans le match, c'est vraiment la ligne défensive.
Ouais, moi personnellement, bah, Cassie, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, comme dit un club de Tokyo, le mercato n'est pas fini. Donc, je ne vais pas parler en japonais parce que je ne le connais pas. Mais si un club de Tokyo est prêt, de Tokyo ou du Japon, est prêt à prendre Cassie pour 25 euros, je vous le dépose en Yaris. Pas de souci. Sissoko, je ne
En
vais pas parler
picanto.
en Picanto si vous voulez. Pour Sissoko, personnellement, je ne veux pas trop lui en vouloir parce que, encore une fois, ce n'est pas son poste, même s'il dépanne. Et qu'on a entendu et qu'on a lu qu'il dépannait plus que bien. J'aurais préféré voir Lucas Perrin à ce poste-là. Fila, je suis parti à la 35e minute au centre de la Croix-Rouge. Je suis revenu, il avait un bandeau sur la tête. Pourtant, je ne l'ai pas croisé au centre de la Croix-Rouge. J'aurais préféré parce que sur le terrain, bah, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais je ne l'ai pas trouvé bon non plus.
Alors attends,
Donc,
pour
voilà.
t'expliquer le bandeau de Fila. D'ailleurs, ça c'est un truc où moi j'aurais mis un carton rouge d'ailleurs hein, à Mangani. Parce que Mangani lui a mis les crampons en pleine tête. Le pied, il a dû
D'accord.
le lever à 1,50 m et il lui a mis le crampon en pleine tête. Donc volontaire ou non, ça pour moi c'est une faute qui vaut rouge. Mais bon.
Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que quand je suis revenu de la Croix-Rouge, parce que pour la petite histoire, si je suis parti à la Croix-Rouge, c'est que sur le but de Habib Diallo refusé pour hors-jeu, je me suis mangé un escalier dans le tibia qui est gonflé. J'ai le tibia gauche qui est gonflé comme pas possible. Et j'ai eu droit à mon petit voyage à la Croix-Rouge. Moi, tout va bien. Hein, c'est juste le stadier qui a voulu m'envoyer à la Croix-Rouge. Il voulait que je
Cyril,
vienne faire des radios.
on citera le tweet pour ceux qui veulent voir sur le compte Twitter de la cave de papy, pour
Vous
ceux qui veulent
pourrez.
voir l'état du
De
tibia
mon tibia.
de
Ah ouais, c'est
Cyril.
terrible, terrible. La saison commence bien, en tout cas, de mon côté. Le retour en tribune s'est bien passé.
Ouais, mais je suis assez d'accord au final sur ce qui a été dit. Après, Sissoko, je serais pas catégorique sur lui, je vais pas l'enterrer parce que encore une fois, il n'est pas à son poste. Alors, il faudra expliquer pourquoi Perrin n'est pas rentré, pourquoi Perrin n'a pas joué. En tout cas, Sissoko, bah, il fait un intérim qui est quand même assez compliqué, mais je l'ai trouvé plutôt bon. Enfin, plutôt bon par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. En tout cas, comparé à Djikou, moi, je l'ai trouvé vraiment plus intéressant. Djikou, pour moi, c'est son pire match forcément cette saison. Mais si on l'avait comparé à la saison dernière, ça aurait fait partie des pires. J'ai pas vraiment compris pourquoi il a utilisé sa main, ce qui a coûté le carton jaune. Je l'ai trouvé vraiment fébrile. J'ai pas eu ce ressenti du patron de la défense qu'on avait la saison dernière, en fait. Et
Ouais,
puis, ouais, et puis, je sais pas pour vous hein, ce que vous en pensez, mais là-dessus, au final, peut-être qu'on a sous-estimé un petit peu le rôle de Mitrovic. Comme, ben, au final, c'est ce qui a été dit sur le chat Facebook, je viens de le voir. Philippe Béter qui dit on râlait sur Mitrovic l'année dernière, mais il manque quand même un défenseur. Et
il manque un patron dans la défense, ça c'est sûr.
voilà.
Ben, là, c'est pas pour rien que le club, le staff et la cellule de recrutement cherchent un défenseur central d'expérience. C'est pour ça qu'on a voulu faire congrès. Malheureusement, la visite médicale s'est pas bien passée.
Mais
Moi,
ça,
je
c'est ça, et je vais juste rebondir là-dessus, quelque chose que j'ai pas compris justement. Parce qu'au final, Congrès, il serait dispo là quasiment.
bah,
Voire
ça, en fait.
même, il est dispo. Je ne sais pas s'il a joué avec Dijon.
Il n'a pas encore joué avec Dijon. Le souci, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est que, alors, oui, il a 36 ans, mais il pèse 490 matchs de Ligue 1, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Il était blessé 4 semaines. Je veux dire, aujourd'hui, on se retrouve, on commence le championnat. Alors, au moment où on allait signer Congrès, on n'avait pas encore, je crois qu'on a, on savait pas encore le calendrier. On ne savait pas encore qu'on allait jouer 3 matchs à domicile et un déplacement à Paris. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 8 août, on joue notre premier match de Ligue 1, on se retrouve avec une défense où on est obligé de faire du bricolage. Parce que pour moi, cette défense-là, c'est du bricolage. On aurait signé Congrès, peut-être qu'il n'aurait pas joué aujourd'hui, mais il aurait probablement été disponible pour jouer contre 3, pour jouer contre Brest. Et putain, Congrès, excusez-moi pour le gros mot, mais Congrès, il a fait une très bonne saison avec Montpellier, il a joué quasiment l'intégralité du championnat l'année dernière. Même à son âge, je veux dire, c'est vraiment un patron. Et je pense qu'il aurait pu avoir de la complémentarité avec Djikou. Et ça aurait été beaucoup moins bricolé que de mettre Sissoko et de foutre Perrin sur un banc de touche. Voilà. Maintenant, ouais. On est à une vingtaine de jours de la fin du mercato. Le marché semble relativement fermé. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des pistes. On a entendu parler de Nianion, on a entendu parler de Reka, on a entendu parler de pas mal de gens, de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une bonne recrue importante à ce poste-là, mais je suis sceptique.
Ouais. Bah moi, je suis d'accord. Hein. Au final, je vais encore rebondir sur Cassier. Après, on passera au milieu de terrain. Mais ouais, au final, comme tu l'as dit, Cassier, c'est très, très, très décevant. Hein. Moi, j'ai espoir que Cassier, comme Sissoko, sous Julien Stéphan, justement, arrive, pourquoi pas, à être meilleur, à vraiment passer un cap. C'est un sentiment que j'ai pas encore pour l'instant, mais sur le match là, c'est quand même très compliqué. Hein. Il y a des pertes de balles, il est vraiment pas intéressant. Alors, il va falloir pallier à ça. On en reparlera dans ce qui peut manquer de l'effectif à l'heure actuelle, ce qu'il faudra encore recruter. Mais Cassie, c'est quand même très très juste.
C'était aussi qu'on a entendu des rumeurs sur comme quoi on était intéressé par Meling. Peut-être que Meling, et c'est très probable que Meling n'était pas intéressé par nous, s'il a signé à Rennes, c'est qu'il n'était pas intéressé par nous. Mais quand je vois le montant du transfert de Birger Meling à Rennes, qui est à moins de 3,5 millions, je me dis qu'on a loupé quelque chose. Là, on entend parler de Gudmundsson, arrière latéral gauche, qui peut jouer aussi ailier gauche, qui joue à Groningen aux Pays-Bas. Mais le Groningen en demanderait 7 millions. Pas sûr que Marc Heller y mette 7 millions sur un latéral gauche qui puisse jouer ailier. Voilà.
Ah bah, on ne peut pas se le permettre, hein, ça, c'est clair.
Il y a des pistes, mais...
Et de toute façon, et là encore une fois, on en reparlera, mais je pense que ce n'est pas la priorité. On a des beaucoup plus grosses priorités, et notamment le milieu de terrain. Alors, on avait... Racing Scope avait prévu de mettre une tête de mort sur Liénard. Alors, j'ai vu dans le chat YouTube ou Facebook, je ne sais plus exactement, des gens qui disaient qu'on était assez gentils avec Lienard.
Oui, mais c'est une tête de mort.
On vous rassure, Scope avait prévu une tête de mort et une belle tête de mort parce que pour lui, comme pour beaucoup, il a été très, très, très décevant sur ce match.
Voilà, c'est de ma faute. J'ai mal lu le message de Scope, donc j'ai oublié de la
mettre. Mais il n'y a pas de souci, mais voilà. Le match de Liénard, pour moi, il est assez symptomatique de ce qu'il a déjà fait l'an dernier. Et puis, alors, pour reprendre les mots de Scope, ou en tout cas essayer de les reprendre, c'est vrai qu'il reprochait aussi, au-delà du niveau, le fait qu'il se permettait maintenant, en tant que capitaine, de vraiment engueuler les partenaires comme pas possible, alors qu'au final, Liénard, il fait pas beaucoup mieux, n'est-ce pas, Cyril ?
Moi, tout l'été, j'ai reproché à Stéphane, et j'ai reproché les déclarations qui disaient, les paroles de Lienard qui disaient « ça me tient à cœur de porter ce brassard de capitaine, je veux porter ce brassard de capitaine ». Et j'avais rien contre le fait qu'éventuellement Lienard soit capitaine, parce qu'effectivement c'est un emblème, c'est Lienard, c'est etc. Il fait partie de l'histoire du club. Mais le match d'aujourd'hui montre pourquoi Lienard ne doit pas être capitaine de cette équipe. Premièrement, techniquement, il est dépassé. Dépassé totalement, physiquement il est dépassé, et en plus avec le brassard de capitaine il en fait beaucoup trop. Je veux dire, c'est un des plus mauvais aujourd'hui sur le terrain, et il se permet de faire des réflexions parce qu'il a un brassard. Il joue déjà avec une pression immense autour de lui parce que c'est l'Alsacien, ou considéré comme un Alsacien parce que c'est l'historique, parce que c'est l'emblème du club. Pas besoin de lui rajouter encore un brassard de capitaine pour lui mettre encore plus de pression, encore plus de comment dire, de... Je perds mes mots, Liénard me fait perdre mes mots. En tout cas, voilà, moi je ne veux pas voir Liénard capitaine. Un capitaine doit être un titulaire indiscutable et le match de aujourd'hui montre qu'il ne peut pas être titulaire indiscutable dans cette
Cyril, en fait, ce qui est triste, c'est qu'on va se retrouver avec le même souci l'an dernier avec Mitrovic. Sauf que ce sera 100 fois pire avec Liénard. Parce que Mitrovic, il était quand même à un poste qui lui permettait d'être titulaire de façon assez récurrente. Le souci, c'est que Liénard, moi, je ne vois pas comment on peut faire une saison sans recruter un numéro 8. Liénard aussi, on l'a vu l'an dernier, au bout de la 60e, c'est quand même compliqué. Physiquement, il décline. Un capitaine, en termes de niveau de jeu, il doit être intouchable complètement. Mais le problème, c'est que si on part avec Dimitri Liénard capitaine, on part avec Dimitri Liénard titulaire dans chaque match. C'est quelque chose qu'on ne pourra plus changer. Et pour moi, c'est vraiment très compliqué d'envisager ça. Moi, quand j'ai vu capitaine, enfin quand j'ai vu Liénard prolongé, pour moi, c'était dans un rôle un petit peu d'accompagnement pendant une ou deux saisons, avec toujours un petit peu de temps de jeu, mais pas en tant que titulaire. Moi, je comprends pas.
À leur place en tribune sud, par exemple, ça c'est bien.
Non, mais voilà, mais je sais pas comment c'est possible d'envisager ça. Alors après, oui, la question c'est quel capitaine. Moi, j'aurais bien vu Djikou, mais je pense que ce soir, il nous a montré que c'était peut-être pas le rôle de qu'il avait peut-être pas le mental pour être capitaine. Je sais pas, je continue à croire en lui. Sels, comme le dit Cédric Nice BLZ, moi, je suis pas fan de donner le brassard à un gardien. Alors, j'aime bien que le capitaine.
Je sais que ça va paraître fou, hein, mais ouais. J'avais demandé pourquoi pas mettre le brassard de capitaine. Alors il revient, mais juste pour l'image, Gamero, l'enfant du pays, pourquoi ne pas lui. Si tu veux pas le donner à Djikou parce que tu estimes que peut-être il a pas le mental, Liénard, on est tous d'accord qu'il peut pas l'avoir, ce brassard de capitaine. Cels, j'aime pas non plus donner le brassard de capitaine à un gardien parce que il faut que ce soit un joueur de champ parce que c'est lui qui est au cœur du jeu. Donc pourquoi ne pas le donner? Parce que je pense sincèrement que Gamero, à terme, peut-être que si aujourd'hui il n'était pas titulaire au final, c'est parce qu'il avait écourté une séance d'entraînement, parce qu'il avait une grosse fatigue. Peut-être que c'est juste la reprise pour Gamero, mais pourquoi ne pas donner le brassard de capitaine à Gamero, par exemple?
Quand tu regardes bien tous les matchs que tu regardes, c'est extrêmement rare qu'un attaquant ait le brassard. C'est extrêmement rare.
C'est vrai aussi. Bah souvent, c'est des postes plus défensifs, c'est le problème. Les gars, on va juste reparler du rôle de capitaine un petit peu plus tard. On va avancer un peu sur la feuille de Schlopp. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Bellegarde? Moi, je l'ai trouvé quand même assez intéressant sur certaines phases. Je pense que c'est dans la logique de progression qui nous montre depuis la saison dernière. Ce sera un élément important pour moi. Je vous laisse discuter assez brièvement sur lui.
Pour moi, il est au même niveau que l'année dernière. Il était juste, en fait, il s'est juste aligné à la performance de l'équipe. Mais sinon, il montrait les mêmes qualités que l'année dernière. C'est le même Bellegarde l'an dernier, sauf que il était pas bien entouré aujourd'hui. Donc, il nous a fait une prestation plutôt moyenne. D'où sa note sur le flop.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Steve. En fait, Bellegarde, moi, j'ai trouvé qu'il a été intéressant. Mais son match est moyen parce qu'effectivement, toujours le problème qu'on a avec Bellegarde depuis la saison dernière, c'est l'idée de son placement en fait. Finalement, il joue ce soir, on était dans un 4-4-2, enfin cet après-midi, dans un espèce de 4-4-2 à plat avec Thomasson sur l'aile et Waris sur l'aile et Bellegarde en espèce de milieu récupérateur. Et je pense que Bellegarde est quelqu'un qui a besoin de voir le ballon, donc je l'aurais peut-être mis plus dans un 4-4-2 losange avec Bellegarde devant Djikou et Sissoko pour lancer le jeu. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, notamment ouais. Sam, Steve.
Je suis assez d'accord. On va avancer sur la feuille de Schlopp. On va juste reprendre un petit peu les commentaires YouTube qui sont assez similaires. Hein, voilà, Pastero, Bellegarde, Brecht. Bellegarde, c'était pas trop mal pour Guillaume Bretzner. Cohn qui sera un de nos nouveaux chroniqueurs cette saison et qui nous souligne quand même le fait que ça reste un petit peu inconstant. Au niveau des ailiers, Thomasson ou Waris, personnellement, j'ai trouvé Thomasson encore vraiment fantomatique. Il est sur, Un peu comme Steve a pu dire pour Bellegarde, pour moi, Thomasson, il est sur la lancée de sa saison dernière, sauf que c'est une très mauvaise lancée. C'est vraiment très, très, très décevant. Je regrette le fait qu'il sera encore intouchable une saison de plus, parce que c'est Thomasson, mais il va falloir très, très vite se réveiller, parce que c'est juste pas possible.
Ouais, Fantomasson à l'image de la saison dernière, et puis moi je trouve, et c'est pour ça encore une fois que certains, peut-être pour reparler encore une fois du brassard de capitaine, certains pensent peut-être que Thomasson pourrait l'avoir. Ben moi, encore une fois, à l'image, tu parlais de Djikou qui avait peut-être pas forcément le mental, ben Thomasson il n'a pas forcément, c'est censé être le leader technique de cette équipe quand même, hein. On entend ça souvent, ça fait peur.
Ouais, et ce qui me fait peur aussi, c'est, je sais pas ce que Steve en pense, mais juste pour terminer sur le rôle de capitaine, je pense que déjà, il a ni le niveau actuellement, ni le charisme. Pour moi, Thomasson n'incarne rien mentalement.
Moi, ouais. je donnerais, dans l'effectif actuel, moi, je le donnerais à Djikou.
Bah, moi, je le donnerais aussi à Djikou. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. On va passer à Waris. Waris, que j'ai trouvé quand même un petit peu plus intéressant que ce qu'il avait pu montrer l'an dernier. Alors oui, il était toujours décevant, mais j'ai quand même quelques espoirs sur un potentiel retour à un niveau correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Après Waris, la saison dernière, il ne jouait pas. Hein. Il était remplaçant tout le temps. Moi, je l'ai rarement vu titulaire.
C'est ça. La saison dernière, hein.
Donc là, il était...
C'est ça, mais tu te souviens quand il est rentré.
Ouais, mais là, il a été intéressant. Là, il était vraiment intéressant. Donc, il avait plus de liberté.
Moi, déjà, il tentait. Il tentait des choses. Il tentait des dribbles. Alors oui, ça prenait pas, mais il y avait de l'idée. Et sincèrement, je l'ai trouvé beaucoup plus inspiré que les autres. Après, c'est le temps de reprendre. Comme tu l'as dit, il est sur une saison quasi blanche où à chaque fois qu'il rentrait, c'était catastrophique. Il était sous un coach qui lui donnait pas forcément beaucoup sa chance. Parce qu'il
Et il jouait pas à ce poste-là.
Et il jouait pas à ce poste-là. Mais pour moi, Waris, moi je suis pas catégorique, je pense vraiment qu'il aura sa chance cette saison et qu'il saura la saisir.
Je pense aussi. Je pense aussi.
Ouais. Ouais, bah, moi c'est un peu. Moi je suis pas tellement de votre avis, mais après, j'ai envie de dire, je vais pas me prononcer sur Waris parce qu'effectivement, il n'entrait pas dans les plans de Loré, clairement, la saison dernière. Il joue son premier match officiel sous Stéphane, il a montré de belles choses en prépa. J'attends de voir. Et puis si à la mi-saison, Waris est toujours aussi nul, bah, je me ferai un plaisir de lui taper dessus. Voilà.
Et bah parfait. Et on va terminer avec l'attaque. Habib Diallo, Ludovic Ajor. Certains ont pu regretter la présence de Gamero, mais personnellement, quand je vois le match d'Habib Diallo, je suis pas déçu.
Mais Diallo, moi je lui reproche tout le temps toujours la même chose. Hein. Toujours la même chose. Dès qu'il se fait toucher ou un tout petit peu bousculer, il va pleurer auprès de l'arbitre. Et ça commence à m'agacer. Même s'il a fait
alors qu'il pourrait lutter du physique, ouais.
Voilà, alors qu'il pourrait continuer à lutter au lieu de. Il s'arrête de jouer systématiquement. Donc,
c'est son côté Neymar.
C'est son côté quoi?
C'est son côté Neymar.
Oui, bah oui, il y a du boulot. Hein. Mais non, faut qu'il arrête de faire ça parce qu'il pourrait, ça pourrait être un tueur.
Alors, en fait, c'est intéressant ce que vous dites sur Diallo, parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé le match de Diallo. D'ailleurs, il me paraît bien. Mais c'est pas grave. Mais j'ai vu quelques...
Cyril, tu bugs quand même beaucoup. Si jamais tu peux régler le problème.
C'est mieux comme ça?
Oui.
Oui, c'est un petit peu mieux quand même.
Ok, je suis désolé. On reste sur de bonnes bases avec le micro. Non, je disais que c'est intéressant le débat sur Diallo parce que comme vous, je pense qu'il a fait un bon match. Il a d'ailleurs marqué le seul but du Racing aujourd'hui. Signalé hors-jeu peut-être, avec 2 mètres, mais toujours est-il que c'est une des meilleures actions strasbourgeoises. Et pourtant, j'ai bien vu des tweets qui demandaient « On va laisser combien de temps à Diallo encore avant de le vendre ?» Je crois que c'était Numa, si je ne dis pas de bêtises, qui a tweeté ça. Et les réponses étaient plutôt dans le sens de « Ouais, Diallo aussi, et vous savez que je suis un grand défenseur de Habib Diallo. » Ben, j'ai trouvé que Diallo était plus intéressant que Ajork dans ce match-là.
Par exemple. Ah, mais c'est tout pareil.
Ajork, enfin Diallo, c'est le meilleur joueur du match, hein. Du côté du Racing. Hein.
Moi, je suis totalement d'accord.
Je vais juste essayer de retrouver les tweets en attendant alimenter un peu le débat, mais c'est vrai que.
Oui.
Trouver Diallo...
Non, mais on va passer sur autre chose. On va passer sur le dernier sujet malgré tout parce que le temps tourne. On va juste lire quelques commentaires. On a
Arthur Timsit qui nous dit Diallo manque de présence, de physique. Il se montre beaucoup trop fragile et n'influe franchement pas assez dans le jeu. Il était intéressant aujourd'hui, mais il doit rester constant. Je pense pareil. Et puis, on a aussi Frédéric Schillinger qui nous dit Diallo titulaire pour attirer les recruteurs. Personnellement, je pense pas.
Non,
je pense c'est... Pour moi, il faudra compter sur Habib Diallo. Ce sera un petit peu un rôle de joker de luxe. Mais qui sait, pourquoi pas gagner une place de titulaire, parce qu'il est quand même arrivé à Strasbourg avec un très très gros niveau. Il pourrait prétendre à une place de titulaire. Après, la question, c'est à la place de qui. On est quand même très fourni devant. Alors si on est très fourni devant, c'est pas le cas de tout le reste de l'effectif, on a pu le voir. Défense, milieu de terrain notamment, j'y pense, qui pose quand même beaucoup de questions. Selon vous, messieurs, qu'est-ce qui manque vraiment au Racing cette saison?
Du temps, juste du temps. Le temps de se,
donc
le temps
de se trouver. Donc, tu es assez sur l'effectif pour l'instant.
Pour l'instant, il va falloir l'enforcer un petit peu, surtout derrière, mais pour le reste, juste du temps.
Alors, du temps, oui, Steve. Entièrement d'accord, parce qu'on ne va pas commencer à dire, à gueuler, à hurler, Stéphane démission. Il y a eu une préparation qui a été correcte. On a joué quand même contre des équipes européennes, ou presque. Ça change aussi d'affronter Colmar, Mulhouse et la sélection des chômeurs de l'UNFP. Mais les résultats ont été corrects. On a vu également la patte Stéphane avec des récupérations, un jeu basé sur la possession. Comme tu le disais, cette équipe est très douée quand elle a le ballon, un petit peu moins sans ballon, ce qui fait la différence principale avec le jeu de Thierry Loré. Maintenant, du temps, je ne pense pas que ça suffise. Du temps, on en a largement. On a perdu contre Angers, c'est pas dramatique. Si on finit le mois d'août en battant 3, allez, soyons fous, on va faire un match nul à Paris, on bat 3 et on bat Brest, on aura fait un très bon début de championnat. Mais je ne suis pas sûr que du temps suffise à cette équipe. Il faut surtout des recrues en défense. Et je pensais sincèrement que le match d'aujourd'hui, avec le retour du public, l'ambiance de la méno et éventuellement une victoire, le charisme de Stéphane, la venue de Gamero, les ambitions montrées par le staff, etc., puissent donner, éventuellement convaincre certaines recrues qui soient en hésitation à venir chez nous, veuillent les faire venir. Le résultat et le fond de jeu affiché aujourd'hui me laisse perplexe.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas foncièrement parlé de Julien Stéphane dans la feuille de Schlopp. Moi, j'avais quand même... Alors, bien sûr, à mon sens, on pourra vraiment tirer les premiers constats au bout de la cinquième journée. Il nous reste quand même encore 2 ou 3 journées avant que le mercato soit terminé. Il faut du temps. On sait que Julien Stéphane, il est là pour 3 ans. Ce sera une saison de transition, voilà, on le sait. Mais c'est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Malgré tout, je vais quand même mettre un bémol là-dessus. J'avais pas l'impression de voir quelque chose qui commençait à se mettre en place ce soir. C'est un petit peu la seule chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, j'ai pas vu les bases de quelque chose pour l'instant.
Mais quand on voit les matchs de préparation qu'il y a eu, je prends juste l'exemple de Fribourg et de Francfort, c'est pas le même état d'esprit. Hein. On a l'impression que c'est pas la même équipe. Donc moi, ouais. Je mettrais le match d'Angers juste dans la catégorie accident.
Tu le mettrais quand même dans accident.
Moi, je le mettrais quand même dans accident. Même si elle
doit être... C'est pas symptomatique de plus.
Non, il faut juste... c'est le début, c'est la première journée. C'est la première journée, donc faut laisser un peu de temps que tout se mette en place. Il faut renforcer le secteur défensif, ça, c'est même pas niable. Mais moi, je pense que non, c'est juste, ils sont juste passés à côté.
Je te rejoins, Steve, parce que quand on prend toute proportion gardée, quand on prend par exemple l'Olympique Lyonnais, ils ont fait venir Peter Bosch, qui est un entraîneur qui a la particularité d'être réputé pour son jeu offensif. Je pense qu'eux, ils classent aussi le match contre Brest d'hier. J'ai pas vu le match, hein, du tout. Ils classent aussi le match dans la catégorie accident. Ben jamais de la vie, je pense que...
Moi, je l'ai vu, le match, hein, Lyon-Brest. Lyon, ça fait manger.
D'accord. Ok. Bah alors, peut-être que c'est pas un accident pour Lyon et peut-être que Lyon va sous-performer cette saison, mais pense que pour moi, l'arrivée de Peter Bosch à Lyon, comme l'arrivée de Stéphan à Strasbourg, va peut-être permettre d'avoir une saison de transition, d'autant plus que Lyon a pas ils sont un peu à l'image de nous, ils n'ont pas énormément recruté, je crois. Je suis un supporter lyonnais qui s'appelle Julien, que j'embrasse d'ailleurs très fortement, avec qui j'avais fait un avant-match l'année dernière, qui est assez déçu également du mercato, notamment défensif, de l'Olympique lyonnais. Un peu à notre image, finalement. Et après, nous, bien sûr, on ne fera pas le même championnat que Lyon. On ne fait pas partie du championnat de Lyon. Mais effectivement, je pense qu'on peut considérer ça comme un accident aujourd'hui. Attention, par contre, à pas que l'accident
se répète. Alors, justement, Cyril, Steve nous a dit qu'il attendait surtout du temps. Toi, les choses que tu aimerais voir, peut-être les joueurs que tu aimerais voir arriver, les postes renforcés, etc. Tu aimerais voir quoi, toi ?
Ben, j'aimerais bien voir un milieu créateur. On en parle souvent parce que c'est bien beau d'avoir de la puissance de frappe et des attaquants doués techniquement et offensivement cliniques devant le but. Mais s'ils ne reçoivent pas de ballon, ben ça ne sert à rien. C'est bien beau d'avoir Habib Diallo, Ajorc et Gamero devant. Mais s'ils reçoivent des ballons de Liénard qu'ils doivent chercher en tribune dans la tribune ouest, ça ne sert à rien. Bien entendu, on l'a vu aujourd'hui, il nous faut absolument un latéral ou deux. Un latéral, ce serait déjà très bien parce que Cassis, ce n'est pas possible. Un défenseur central d'expérience parce que Perrin, ça reste un pari. Et puis Sissoko, il dépanne, mais il ne pourra pas dépanner toute la saison, je pense. Donc effectivement, là, si on doit recruter à trois postes, c'est les trois postes annoncés. Défense centrale, latéral, milieu.
Alors, on a pas mal de monde dans les chats YouTube et Facebook qui nous propose justement des posts. On a notamment, alors, on a Olibou qui nous dit « Il nous faut un gars comme Traoré, le numéro 8, danger en défense, manque d'automatisme et de précision. » On a Benjamin Hecht toujours qui nous dit « Du temps, c'est sûr. Un gros défenseur central, un gros arrière-gauche, un gros arrière-droit, un milieu et un ailier. » Et libérer Camara, Persic, Sibi, voire un attaquant et Cassie. Bon, là, ce serait vraiment un gros chantier pour le coup.
J'embrasse Benjamin, qui est mon collègue de travail, mais là, il veut refaire toute une équipe en 22 jours, c'est pas possible.
Voilà, c'est un peu compliqué. On a aussi plein de gens sur le chat YouTube qui nous parlent, notamment. Alors, on a JMY9567 qui nous dit il nous faut trois joueurs. Défenseur gauche, défenseur central et un milieu capable de jouer à gauche à la place de Liénard. Il y a la question du 8 qui revient, des gens qui aimeraient voir des latéraux, des ailiers. Alors par rapport à ce que nous avait promis Marc Keller, on sait forcément qu'il n'y aura pas encore 5 recrues. Il faudrait plutôt miser sur 2, 3, peut-être même 4, mais j'ai du mal à y croire. À mon sens, si on peut recruter que 3 joueurs, il nous faudrait obligatoirement un défenseur central, obligatoirement un milieu de terrain, un vrai milieu de terrain, qui parte titulaire à chaque match où on sait qu'on peut construire le jeu avec lui, un vrai créateur au final qu'on mettrait numéro 8. Et après, pour la troisième personne, moi j'hésiterais entre un ailier et un latéral, parce que c'est sûr que Fila, ça reste quand même un pari, on n'a pas vraiment de garantie, mais à côté de ça, on n'a pas vraiment de latéral non plus, d'ailier non plus. Alors, à ce moment-là, si on recrute un ailier, qui est-ce qu'on met sur le banc ? Est-ce que ce serait Thomasson ? Moi, je pense quand même que dans un premier temps, il vaudrait mieux recruter un latéral qui puisse soit jouer à gauche, soit à droite, soit les deux, mais qui soit, pour le coup, un vrai titulaire. De préférence latéral droit, parce que, à mon sens, Fila reste quand même un petit peu inférieur à Cassie.
J'aimerais juste réagir à Franck Alsace dans le chat YouTube qui dit « On est orphelin de Jonas Martin ». Oui. Si on veut, on va le répéter encore une fois, on est orphelin de Jonas Martin, de Youssouf Fofana, de tous ces milieux-là qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. Seulement voilà, ils sont partis, ils n'ont pas été remplacés, on sait qu'il faut les remplacer. J'aimerais bien juste que cette saison, on arrête de parler de Jonas Martin qui est parti à Rennes pour jouer l'Europe et que depuis qu'il est à Rennes, il n'a pas joué un match de Coupe d'Europe ni un match de championnat. Ils n'ont pas été remplacés, on le sait. Merci Franck pour ton commentaire, mais stop. Avec ça, il faut les remplacer, on le sait, ça s'arrête là.
Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut faire quelque chose, parce qu'on a passé une saison complète à avoir très peu de créativité au milieu de terrain, et ça ne pourra pas marcher autrement. Il faudra que ça passe par là. En fait, on a fait un bon mercato quand même, à mon sens. Un mercato qui n'est pas complet, mais il y a de l'idée, il y a des jeunes, il y a quand même un très gros coup. Il y a Julien Stéphan qui lui aussi est un énorme coup. À mon sens, quand même, il faut qu'on. On n'a pas forcément recruté sur nos vrais points faibles, et c'est ça le seul bémol que je mettrais.
C'est à la dernière partie, le top tweet, nouvelle chronique que je vais animer
Oui,
à
oui.
la chronique terroir. Je voudrais quand même poser une question. Il me semblait que Percy, et ça je m'adresse surtout à Quentin qui n'est pas là ce soir, mais il me semblait que
Là,
Percy.
tu vas t'adresser à personne, du coup.
Ouais, ben voilà, mais il me semblait que Percy, ce serait sa saison, et toujours est-il que il a joué avec l'équipe 2 contre Fribourg, et ce soir il n'est pas apparu sur le terrain. Pourquoi?
Ouais, bah ça, ce sera la question, mais dans tous les cas, je pense que Persic, ce sera quand même trop juste pour cette saison. Comme tu l'as dit, Cyril, on va passer à ta chronique, la nouvelle chronique que tu nous prépares. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous la présenter?
Alors du coup, comme on est resté en Ligue 1, j'aurais bien aimé qu'on descende en Ligue 2 pour vous présenter de nouvelles villes. Mais puis finalement, la Ligue 1, c'est bien. Vous connaissez maintenant les villes de Ligue 1 un petit peu par cœur. Et puis les tueurs en série, j'ai vu sur Facebook, chez nos amis de Facebook, que ça plaisait pas trop. Donc du coup, j'ai trouvé une nouvelle chronique. C'est sur chaque match que le Racing va jouer cette saison. On va se balader un petit peu sur le hashtag du match. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, c'est RCSA SCO. Et on va sortir de ce hashtag les meilleurs tweets, donc les tweets les plus rigolos, les tweets les plus comment dire les plus techniques, les plus ceux qu'on estime être qui méritent d'apparaître dans notre top tweet sur la journée. Donc si vous avez envie d'apparaître dans cette chronique, n'hésitez pas, lâchez-vous sur le hashtag du match du Racing lors des prochaines journées de Ligue 1 et vous apparaîtrez peut-être dans notre émission. Voilà, donc on commence avec le premier tweet, un tweet de T Blaugrana 80101 qui a un TN qui s'appelle L'Immortel qui dit: J'ai un profond respect pour les supporters strasbourgeois, sympathique, bonne ambiance et encouragement malgré la défaite. Bonne saison à Strasbourg, qu'on remercie. Le suivant qui va apparaître peut-être, je suis
Il y a
pas
une petite latence, il y a
calé.
une petite latence.
Une
Oui,
petite
vas-y, vas-y, Cyril, fais ta chronique, et puis dans tous les
Ouais.
cas.
On a le tweet de notre chroniqueur et notre CM chéri qui avait tweeté point positif, on a retrouvé la méno. Et comme il aime bien les jeux de mots, point négatif, on s'est fait scorriger. On a Sam Strats qui a fait également un super tweet qui nous dit rare image de Kevin Zoe tentant de revenir à Strasbourg. Avec, je pense que c'était un parachutiste hein, que tu as vu,
C'est
Sam.
ça, bah oui, c'est souvent les parachutistes qu'on voit au-dessus de la méno, hein, mais en
Voilà.
l'occurrence Kevin Zoe, hein, qui essaye de revenir.
Marvin Kiffer qui nous dit il y a une option brumisateur livrée avec le stade en lien avec l'averse de grêle qu'on s'est tapé à la mi-temps. Ensuite, on a Myrdine qui nous dit rendez-nous l'orée. Ça, c'était bien sympathique aussi. Et on a 314 Lyon, l'entrée de Gamero, l'histoire, le joueur, l'ambiance, le stade, magnifique, un supporter de l'OL, donc du coup qui a bien apprécié le retour de Gamero à la méno. Et puis Matt Yeux qui nous dit meilleure ambiance de France, RCSA, ça bouge zéro. Et pardon FCSM officiel pour cette infidélité.
Ah, en plus un supporter de Sochaux.
Bien, on remercie en tout cas à tous les tweetos qui ont participé à cette nouvelle chronique. Je le répète, Playflow dans le chat YouTube qui dit quel beau gosse ce Flo. Il se fait des autodédicaces, c'est sympa. En tout cas, je le répète, si vous souhaitez apparaître dans cette chronique dès les prochaines émissions, que ce soit moi qui la présente ou mes camarades, n'hésitez pas à être inventif sur le hashtag du match. Donc le prochain hashtag, bien sûr, hashtag PSG RCSA. Et puis je pense qu'on peut passer au pronostic pour la semaine prochaine.
Voilà, bah exactement la semaine
Peut-être d'abord les
prochaine.
résultats du jour.
Ah bah oui, bah oui, c'est vrai, parce que maintenant, Steve, qui fait partie de la nouvelle régie de la cave de papy, nous présente bah les résultats du jour. Il nous a fait un très très beau visuel pour ça.
C'est beau. Alors, tu les commandes, Sam?
Oui, bah on a pu voir déjà hier, pour ceux qui, même avant-hier, pour ceux qui ont vu le début de la Ligue 1, tout simplement le match nul entre Monaco et Nantes. Peut-être assez surprise d'ailleurs. On vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à rejoindre notre ligue. Alors, C'est j'ai oublié le nom exact de l'application. Voilà, c'est My
C'est
Prono.
My Prono, ouais.
Voilà, My Prono. Donc, on fait une ligue de pronostics, My Prono. Vous aurez le lien sur notre compte Twitter. On l'a publié. Il a aussi été publié sur le compte Facebook de Planet Racing, qui est notre nouveau partenaire pour cette saison. On en profite aussi pour remercier Rue89 d'avoir été là la saison dernière. Voilà, donc vous pourrez lire, retrouver les articles de la cave de papy sur le site de Planet Racing. Et si vous faites déjà partie de la ligue de pronos, peu nombreux étaient ceux qui avaient vu le match nul entre Monaco et Nantes. D'autres matchs nuls, un partout, on en a eu avec Rennes-Lens, Lyon-Brest et aussi Saint-Étienne-Lorient. À côté de ça, on a eu des victoires, celle d'Angers 2-0 à Strasbourg forcément. La victoire 2-0 de Clermont à Bordeaux, qui devrait être d'ailleurs premier de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises.
Égalité avec
Angers. Et voilà, premier de Ligue 1, voilà, un top 3 qui fait rêver avec le PSG juste derrière, qui s'est imposé 2-1 à 3.
Et le match nul de Metz et entre Metz et Lille, 3 partout au final, pour ceux qui s'étaient arrêtés à 3-1 pour Metz, comme Franck Alsace par exemple.
Eh bah, bien, parfait. Le classement, comme on a pu le voir, voilà, tout simplement, Angers et Clermont, les deux premiers du championnat pour l'instant, suivis du PSG, de Lorient et de Nantes, forcément, qui n'ont qu'un point. Messieurs, on s'accorde pour dire que ça ne se finira pas comme ça la saison.
Ce serait la surprise du siècle.
Voilà.
Les bookmakers en PLS, là.
Voilà, parfait. Et puis, bah, pour ce qui concerne la deuxième partie de tableau, voilà, on va assez vite passer sur le fait que le Racing, malheureusement, c'est un petit peu notre attaque spéciale, ça, d'être dernier à la première journée à chaque fois. On l'avait été la saison du retour en Ligue 1, si je dis pas de bêtises, après le 4-0 à Lyon.
Oui. Bon, on l'avait aussi été, je crois, à la fin octobre, il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans.
Ouais, bah voilà.
Comme
c'est un petit peu... C'est malheureusement comme ça qu'on commence la saison. En tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous ce soir. On va terminer par les pronostics. Du coup, le Racing qui se déplace au PSG la semaine prochaine, peut-être pour la présentation de Lionel Messi, hein, qui sait. Cyril, nous, on sera sûrement à Paris la semaine prochaine.
Oui, on va y être, on va y être.
Voilà, donc vous retrouverez d'autres chroniqueurs. Messieurs, un petit pronostic pour la semaine prochaine.
Oh, bah, je pense qu'on va prendre une valise. Je pense qu'on va prendre valise. Je pense qu'on va en prendre au minimum 3.
Ah, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que toi, Steve. Je pense que, comme tu le disais, c'est un accident cette semaine. Le PSG n'aura pas le retour encore de ses Sud-Américains favoris, Neymar, Di Maria, Paredes, Messi et compagnie qui ne seront pas là.
Ah, mais si, c'est pas encore signé officiellement.
Ouais, ça va.
Oui, ça sautera.
Je pense qu'on va perdre, mais on va perdre, allez, 2-1 pour le PSG.
Bah écoute, moi je vais suivre Jean-François Caradona et Olivier Razi sur le chat de Au Cœur du RCS. 4-0 pour le PSG. Pour moi, tout simplement, bah, on va prendre une valise comme l'a dit Steve. Mais je pense surtout que ce sera à n'en pas douter le jour de la présentation de Messi. Il y aura toutes les caméras du monde entier qui seront rivées sur le Parc des Princes ce soir-là. Le PSG peut juste pas se permettre de faire un match moyen ou un mauvais match. On va en subir les frais, d'autant plus qu'on n'a toujours pas une défense complète.
Tu sais que ça arrive souvent, hein, quand une équipe ne peut pas trop se permettre de se rater, que ça arrive.
Ouais, mais pour le coup, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas non plus une pression impérative du résultat. Tu vois. Le PSG gagnera, c'est sûr, à 95%. Après, la question, c'est la manière, et je pense qu'ils ne vont pas non plus se mettre une pression pas possible. Mais voilà, quand on voit les carences en défense, etc., moi, ça me fait quand même assez peur pour le match au PSG. Et je pense qu'on va pas mal galérer la semaine prochaine.
C'est sûr.
Voilà. Quelqu'un a encore quelque chose à rajouter ?
Non. On a fait le tour.
Ah-ha. J'embrasse Mousse. Ah-ha dans le chat YouTube.
Eh ben, parfait. Parfait. Voilà. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir été très présents. Voilà, on s'excuse encore une fois des quelques petits soucis techniques. On essayera de faire en sorte qu'il n'y en ait plus trop pour le reste de la saison. Après, voilà. C'était le début. On est encore un petit peu en rodage. On a essayé de vous proposer un contenu un peu différent. Il y aura sûrement d'autres nouveautés qui arriveront d'ici la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, la cave de papy. On va y annoncer le nouveau format aussi qu'on vous proposera dans la semaine. Ce sera un petit peu différent des débriefs de match. Ça aura un autre nom, voilà. Donc les débriefs, vous pouvez retenir, c'est désormais la prolongue et on aura un autre format dès la semaine prochaine. Voilà, on était très content de faire ce premier match avec vous. On aurait préféré faire une victoire, mais bon, qui sait, peut-être pas la semaine prochaine, on vous le promet pas non plus. Mais bon, d'ici 2 semaines, qui sait, pourquoi pas. Voilà. Merci à vous, messieurs, d'avoir été là. Merci à Depuis la Butte aussi. Merci à nos partenaires au cœur du RCS, au chat Facebook, forcément. Merci à Planet Racing aussi, qui est notre nouveau partenaire. Vous pourrez retrouver dans la semaine plein d'articles qui sortiront. Voilà, on va monter une équipe de rédaction commune pour vraiment faire vivre au jour le jour l'actu du Racing. D'ici là, portez-vous bien pour la semaine prochaine. Passez une bonne semaine malgré tout en étant dernier de Ligue 1. C'est pas forcément mieux, mais qui sait, peut-être que ce soir, des gens feront pire que nous. Et puis voilà. Merci à tous et qu'on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Équipe de France Olympique, volleyball, basketball, handball.
Voilà. Voilà. Félicitations à tous les champions olympiques. T'as bien raison, Cyril.